Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi Politique. C'est le député Hervé Guémard, ancien ministre de l'économie et des finances, actuellement en charge du projet présidentiel d'Alain Juppé chez les Républicains, qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir Hervé Guémard, bienvenue. Pour vous interroger à mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24, Alain Onfray de Libération. Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur la préparation des élections régionales à droite, mais également sur la bataille déjà bien entamée en vue des futures primaires du parti. Mais pour commencer, eh bien, une question sur la très chaude actualité internationale de la Turquie au Proche-Orient, mais également avec cette escalade militaire en Syrie. Et cette question qui se fait jour à la faveur des frappes françaises contre Daesh, la France a-t-elle le droit de tuer ses ressortissants français en Syrie, fussent-ils djihadistes? À cette question, le Premier ministre Manuel Valls répond oui.
La France, c'est la décision du président de la République, a décidé de frapper des cibles où se préparent des attentats contre la France. À partir du moment où nous savons que ces attentats se préparent ici en Syrie, au nom de la légitime défense, c'est d'une obligation que de frapper Daesh. Et nous continuerons, quelle que soit la nationalité de ceux qui sont dans ces centres qui préparent des attentats, de ce point de vue-là, n'ont pas de passeport.
Voilà, les terroristes n'ont pas de passeport, dit Manuel Valls. Vous êtes d'accord, Hervé Guémard ?
Complètement. Je pense qu'il faut mener la guerre au terrorisme. Et les terroristes peuvent être de nationalités différentes, dont certains de nationalité française.
Alors, si on ne saurait remettre en cause la légitimité, enfin, en tout cas, la légitime défense, est-ce qu'on n'est pas là dans une nouvelle doctrine française qui était plutôt, jusqu'à ce jour, américaine, avec ce qui s'apparente à des exécutions extraterritoriales? Est-ce que ça, c'est bien légal?
Non, ce ne sont pas des exécutions territoriales. C'est-à-dire que nous sommes attaqués sur notre sol national par les terroristes. Nous sommes engagés au Moyen-Orient. Je vous rappelle qu'il a été décidé que l'aviation française pouvait intervenir en Irak. Je vous concède qu'il n'y a pas eu formellement la même autorisation pour les frappes en Syrie. Mais ceci étant, quand on frappe un nid de terroristes, je doute qu'on ait des armes suffisamment précises pour distinguer la nationalité des terroristes en cause. J'ajoute qu'il n'y a pas de... Que je sache, moi je ne suis pas au pouvoir, donc je n'ai pas les informations des services spéciaux, mais on n'a pas de brigade française identifiée dans les terroristes comme la division Charlemagne sur le front de l'Est qui était avec les nazis, mais on a des Français, des terroristes d'origine française qui sont mêlés aux combattants de Daesh. Donc ce ne sont pas des frappes sélectives contre les Français, ce sont des frappes générales contre les terroristes et très honnêtement, ça ne me choque pas du tout.
On sent une inflexion de la droite, pour une partie de la droite, certaines personnalités pour Poutine. C'est le cas de Fillon qui assume complètement en disant il faut s'allier avec Poutine et l'Iran pour combattre Daesh. Qu'est-ce qu'on en pense dans l'écurie Juppé?
Alors, c'est pas une question d'écurie Juppé. Alain Juppé s'est exprimé à plusieurs reprises sur ces questions. Je crois qu'il ne faut pas personnaliser les choses par rapport à Poutine, mais regardez la situation telle qu'elle est au Moyen-Orient. Bon. Nous avons trois puissances régionales importantes qui soit interviennent clairement, soit interviennent de manière ambiguë, et ces trois grandes puissances, c'est la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. La Turquie, j'en profite pour dire toute notre compassion pour le peuple turc suite à l'attentat qui a eu lieu à Ankara. Mais ceci étant dit, la Turquie a une politique extrêmement ambiguë parce qu'elle a davantage pilonné les Kurdes que les islamistes jusqu'à présent. L'Iran a une politique claire qui est l'axe chiite de soutien à Assad. Là, les choses sont claires. Et l'Arabie Saoudite mène des opérations dans son arrière-cour, c'est-à-dire le Yémen. Mais sur ce qui se passe un peu plus au nord, c'est une politique pour le moins ambiguë, parce que elle craint Daesh aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle a fermé sa frontière. Mais on sait bien qu'il y a eu des financements naguère, et peut-être encore maintenant, pour les milices islamistes. Donc ça, ce sont les puissances de la région. Et ces puissances de la région, par définition, elles ont vocation à intervenir. Alors après, il y a les pays qui sont extérieurs au théâtre d'opération. Donc il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne et quelques autres. S'agissant de la Russie, on fait semblant de découvrir.
Vous ne perdez pas de vue ma question.
Oui, oui, mais j'y viens. Parce que, non, mais le problème, c'est qu'on a. On est dans la géopolitique. Oui, oui. Et tout se résume pas à Poutine. Et on a l'impression que la Russie est une dernière née sur la scène moyenne-orientale. Je regrette.
On aura compris que.
Il y a eu, jusqu'en 1918, 13 guerres entre la Russie impériale et l'Empire ottoman. Souvenez-vous des livraisons d'armes soviétiques à partir de 1955 à la Syrie, à l'Égypte, à un certain nombre d'autres pays. Souvenez-vous que depuis les opérations en Crimée au 19e siècle, la Russie s'investit comme protectrice des chrétiens d'Orient. Donc l'intervention,
est-ce qu'il faut s'allier avec Poutine
que je voudrais dire,
pour faire tomber Daesh
parce que comme
avant même
on
de
est dans une société amnésique, voilà. Je voudrais rappeler que la Turquie, ça fait au moins 3 siècles qu'elle intervient au Moyen-Orient, donc ce n'est pas une nouveauté. Alors maintenant, je vais répondre à votre question.
Sur cette droite qui glisse vers Poutine.
Je vais répondre, il n'y a pas que de la droite, d'ailleurs, il y a aussi à l'extrême-gauche beaucoup de gens qui soutiennent Poutine aussi. Moi, je suis français, donc je ne soutiens personne par définition. Je ne suis pas plus poutinien qu'anti-poutinien. Je considère simplement que la Russie est un grand pays qui existe et avec lequel il faut parler. Premier point. Deuxième point, je regrette qu'entre la Russie, quand la Russie intervient, semble-t-il, elle cible en priorité Al-Nusra plutôt que Daesh. Troisièmement, que dans le cadre d'une opération globale internationale, les Russes ne peuvent évidemment pas être en dehors du jeu. Mais ce que je constate aussi, et ce que je déplore, c'est que aujourd'hui, sur ce sujet, tout le monde patauge un peu, sauf la Russie, qui sait exactement ce qu'elle veut.
Tout le monde patauge.
Est-ce que vous diriez, comme l'ont fait beaucoup de responsables de votre famille politique, que dans cette affaire, la France et François Hollande ont fait preuve d'un manque de leadership tragique, dramatique? Ça a été beaucoup dit. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez?
Oui et non. Oui, parce que j'avoue qu'il y a eu un certain nombre de zigzags dans la politique française sur des décisions qui sont parues, velléitaires, soit une retenue dans la décision, soit ensuite un manque suffisant de visibilité sur les vrais objectifs politiques de notre intervention. Et non, parce que la France n'est pas seule au monde et j'allais dire qu'au Moyen-Orient, nous avons une mission de pacification. On a toujours su dire les choses, que ce soit sur le conflit israélo-palestinien qui est un peu entre parenthèses en ce moment. Mais sur la question qui nous préoccupe, nous avons été puissance mandataire au Liban et en Syrie, il faut quand même pas l'oublier, et nous avons un attachement très fort pour les chrétiens d'Orient. Et je trouve que le soutien de la France et des Français aux chrétiens d'Orient a été tardif de la part des autorités françaises, et je le déplore. Après, pour le reste, je ne vais pas dire que la France peut et doit intervenir de manière massive au Moyen-Orient. Notre outil militaire ne le permet pas. On a déjà fait un boulot formidable au Sahel et au Mali, et on le fait encore.
Donc
et moi, je voudrais rendre hommage.
Vous saluez l'action diplomatico-militaire du président Hollande?
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Vous saluez en tout cas l'action menée au Sahel.
Ah oui, au Sahel, oui.
Le Mali.
Oui, au Sahel, oui, au Sahel, au Mali. Je trouve que la France a eu une décision rapide et salutaire, parce qu'il fallait intervenir quand les colonnes islamistes fonçaient sur Bamako. Il se trouve que je connais un peu ce pays et que c'est vrai que c'est un vrai billard. Et si on les avait pas stoppés là, on aurait aujourd'hui un gouvernement islamiste à Bamako qui menacerait le Sénégal. Ça, c'est tout à fait clair. Mais pour le reste, je trouve que au Moyen-Orient, il y a un certain nombre d'atermoiements. Mais ceci étant, je suis désolé d'être nuancé, je sais que la nuance, ça passe pas en politique, hein. Il faut pas non plus imaginer que nous puissions militairement intervenir massivement aujourd'hui au Moyen-Orient. Et ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est la clarté de la politique américaine. Autant on voit bien la clarté de la politique russe, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est d'accord ou pas, mais en tout cas c'est clair. Les États-Unis, on le sait bien, sont en partie responsables de ce qui se passe actuellement, parce que tout ça vient quand même, Daesh est le fils de l'intervention militaire de Bush fils en Irak en 2003, et aujourd'hui il y a un silence assourdissant des Américains.
Alors on revient en France avec l'actualité politique et le coup d'envoi cet après-midi à l'Assemblée nationale de ce qu'on appelle le marathon budgétaire pour ce qui sera le dernier budget utile, comme on dit, du quinquennat Hollande, avec cette mesure phare d'une grosse baisse d'impôts, 2 milliards d'euros, 8 millions de foyers fiscaux concernés. C'est pas un bel effort, Hervé Guémard ?
Bah, c'est une politique de gribouille. On augmente les impôts pendant 3 ans, de manière massive. Et ensuite, à l'avant-veille ou à la veille de l'élection présidentielle, on décide de les baisser. Et au passage, les classes moyennes sont ratiboisées. Parce que c'est bien ça le drame de notre pays aujourd'hui, y compris après les baisses d'impôts alléguées par le gouvernement dans le budget de l'année prochaine, c'est le passage à tabac des classes moyennes. Et moi je considère que c'est un drame pour notre pays, et ce passage à tabac des classes moyennes va être accru si le projet de Monsieur Hérault de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu prospère, ce qui rendra la CSG progressive, et on sait bien qui payera, ce seront évidemment une fois de plus les classes moyennes. Donc je trouve cette politique extrêmement dangereuse.
Alors vous êtes en charge, on l'a dit, du projet d'Alain Juppé pour les primaires et donc pour la présidentielle. Est-ce que vous, dans votre programme, vous avez prévu des baisses d'impôts pour les ménages? On sait que vous êtes pour la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune. On sait que vous êtes pour une baisse de la fiscalité des entreprises. Mais pour les ménages, est-ce que dans le programme que vous préparez, c'est inscrit? Vous y pensez?
Alain Juppé s'exprimera sur ces questions dans quelques mois. Pour l'instant, il travaille.
On a déjà des pistes.
Nous travaillons. Il y a un certain nombre de pistes. D'abord, un premier principe, c'est que on ne baisse pas d'impôts sans baisser des dépenses publiques, parce que sinon on creuse encore davantage les déficits et donc l'endettement public, et nous n'avons pas besoin de ça vu le niveau très élevé d'endettement qui, je le rappelle, aura atteint sous le quinquennat actuel quasiment 100% de la richesse nationale, ce qui s'était jamais vu en temps de paix.
Vous ferez campagne sur les baisses d'impôts.
On l'a vu dans... Comment ?
Vous ferez pas campagne sur les baisses d'impôts.
Baisse d'impôts et baisse de dépenses concomitantes.
Oui, mais alors moi sur l'ISF, c'est un vieux projet de la droite qui dans le fond l'abandonne à chaque fois au dernier moment. Mmh. Mais moi je veux bien qu'on supprime tous les impôts de la terre, mais par quoi on les remplace?
L'ISF est un impôt imbécile. Je crois que chacun en convient aujourd'hui. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir cet impôt. Pourquoi il est imbécile? Parce qu'il taxe 4 fois l'épargne. Au moment de sa formation, sur ses revenus, sur les plus-values et sur la transmission. Donc c'est tout simplement pas possible, et on sait très bien que c'est tout ça est très documenté.
On taxera plus le capital alors.
Mais le capital est déjà beaucoup taxé. Et on ne peut pas comparer les revenus du capital par rapport aux revenus du travail. Parce que l'épargne, on peut dire épargne du capital, ça veut dire la même chose. L'épargne, c'est ce qui reste quand on a déjà payé tous les impôts sur le revenu. Donc il est faux de considérer que l'épargne est la même chose que le revenu, puisque l'épargne, par définition, c'est ce qui reste quand on a déjà taxé les revenus. Donc c'est la raison pour laquelle l'épargne est beaucoup trop taxée en France. Et allez pas vous demander pourquoi, il y a autant de Français qui partent à l'étranger, et autant d'investissements qui ne se font plus en France. Donc à l'évidence, il faut supprimer l'ISF, comme l'ont fait d'ailleurs des pays socialistes ou sociodémocrates. Je rappelle que c'est les sociodémocrates suédois et espagnols qui ont supprimé l'ISF, et de ce point de vue-là, la France est dans une anomalie coupable.
Mais sur quoi on retaxe alors?
Parce que on baisse les impôts, les dépenses publiques.
Avant de baisser les impôts,
explique. On baisse les dépenses publiques parce qu'on ne peut pas durablement baisser les impôts sans baisser les dépenses publiques.
J'ai le droit à encore une question ou pas? Parce que si on baisse la baisse des dépenses, pareil, c'est la défense, c'est un sanctuaire. L'éducation, on n'y touche pas. La police, la justice, on n'y touche pas.
Oui, là, on a parlé des fonctions régaliennes. Mais il y a beaucoup d'autres dépenses publiques, que ce soit au niveau de l'État, des collectivités locales. Je suis président de conseil départemental. Je mène moi-même depuis plusieurs années une politique d'économie sur les dépenses, et je peux vous dire que on le fait continuellement et constamment. Et puis il y a aussi des économies à faire sur les dépenses sociales. Ça, chacun le sait.
Vous êtes en guerre contre la baisse des dotations, si j'ai bien compris, les collectivités territoriales, notamment les départements. Donc ou les communes plutôt, pardon. Mais c'est un peu contradictoire.
Non, parce qu'il y a un tour de passe-passe du gouvernement actuel, évidemment, puisque le gouvernement actuel a subi beaucoup de défaites au municipal et beaucoup de défaites au cantonal. Alors on ne sait pas encore comment se passeront les régionales.
Et
j'espère, tant qu'une élection n'est pas faite, elle n'est pas faite. Donc actuellement, le gouvernement se livre à un tour de passe-passe. Il ne fait pas d'économie sur les dépenses de l'État. Et il réduit les dotations aux collectivités locales pour que ce soit les collectivités locales qui le fassent. Donc je trouve que c'est une très grosse ficelle. Voilà. Alors pour le reste, je vous rappelle que ce qu'on appelle, je suis désolé d'entrer dans la technique, mais ce qu'on appelle les dotations aux collectivités locales, c'est pas un cadeau de l'État aux collectivités locales. C'est des dotations qui existent parce que des impôts locaux ont été supprimés. Dans notre histoire, depuis 50 ans, il y a des impôts locaux qui ont été supprimés, et comme on a supprimé l'impôt, on a mis à la place une compensation de l'État. Donc c'est pas du tout une fleur que l'État faisait aux collectivités locales.
On reste sur les mesures fortes du futur projet Juppé, dont vous nous avez expliqué, Hervé Guémard, qu'il était en pleine préparation. Ce qui s'annonce également la réforme des retraites que prône Alain Juppé, avec l'allongement de la durée des cotisations à 65 ans. Là où Sarkozy les veut à 63, même le MEDEF les espère à 64 ans, est-ce que vous placez pas la barre un peu haut?
Chacun prend ses responsabilités ou prendra ses responsabilités. Alain Juppé s'est exprimé en ce sens. Je rappelle que jusqu'en 82, le départ à la retraite était de 65 ans, alors que la vie était beaucoup plus courte qu'aujourd'hui. La vie biologique était beaucoup plus courte aujourd'hui, et je ne sache pas que la France était, que les Français étaient beaucoup moins heureux avant 82 que depuis 82.
Mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'aller trop vite, trop loin?
Non.
Comme ça avait été le cas pour Juppé, lorsqu'il était ministre et qu'il avait déjà essayé de... Premier ministre,
vous voulez qu'on revienne sur l'épisode de 95? Je pense que sur la question de moi, ce qui me frappe, c'est comme sur le Moyen-Orient, c'est l'amnésie. Je lisais des articles dans les journaux ces derniers jours. On disait les retraites sont à l'équilibre, etc. Sauf que les retraites complémentaires sont dans une situation catastrophique.
On doit décider cette semaine.
Et les retraites complémentaires sont dans une situation catastrophique. Et ce qu'on appelle les régimes spéciaux des fonctionnaires et des services publics sont également dans une situation catastrophique, et c'est les contribuables, c'est tous les contribuables français qui payent ces régimes-là. Donc chacun sait qu'il faut bien faire une réforme de régime des retraites.
Mais 65 ans, si on rallonge, ça veut dire qu'il faut que ça soit suivi d'une politique de croissance et d'emploi.
Oui, bien sûr. C'est une politique globale, oui, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est remettre le pays au boulot. Ce qu'il faut, c'est diminuer les déficits.
Mais ma question, c'est
Moi, c'est ce que je vous dis, c'est qu'Alain Juppé présentera son projet économique et social l'année prochaine, au mois de juin, qu'il a déjà esquissé quelques pistes dont j'ai parlé. Il a déjà parlé de la réforme de l'éducation. Et ce que nous voulons, c'est une politique dynamique qui redynamise notre économie.
Et dans les mesures fortes aussi, le passage de la durée légale du travail de 35 à 39 heures, d'où à nouveau ma question, est-ce que, on sait, Alain Juppé, il dit, voilà, il y a la petite goutte d'eau, je sais que, il faut réformer, il faut agir, mais juste que ne pas aller trop loin.
Parce qu'il y en a beaucoup qui l'accusent d'être mollasson, de pas être assez hardi dans ses propositions. Et quand il fait une proposition claire et courageuse, on dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Je pense que les Français sont en avance sur leurs hommes politiques.
Voilà, c'est la fin en tout cas de la première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après les infos pour parler, cette fois, régionale et primaire.
Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi politique, deuxième partie, toujours en compagnie du député Les Républicains Hervé Guémard, ancien ministre de l'économie et des finances, actuellement en charge du projet d'Alain Juppé, pour vous interroger, Alain Onfray de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Alors, on le disait en titre, nous sommes à moins de deux mois maintenant des élections régionales, et à droite comme à gauche, dans la majorité comme dans l'opposition, eh bien, chacun s'accorde à reconnaître que ça ne va pas être facile, et d'autant moins que le Front National ne cesse de marquer des points. 31% des Français prêts à voter pour Marine Le Pen, Hervé Guémard. Ça vous inquiète ou alors vous consolez avec le fait que 67% disent qu'elle n'a pas la carrière d'une future présidente? Quelle réaction on a à ce genre de sondage?
Écoutez, ça fait depuis des années, voire des décennies, que le Front National augmente ses scores aux élections en France, régulièrement. Ça a commencé il y a 30 ans. Et je n'ai jamais vu cette augmentation, évidemment, avec plaisir. Mais je dirais, pour faire le lien avec les primaires dont vous parlez, c'est que ce niveau élevé du Front National justifie encore davantage l'organisation d'élections primaires pour choisir qui sera le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle.
On arrive aux primaires, on reste à l'instant sur les régionales. Vous pensez vraiment que le Front National peut remporter une région?
J'en sais rien, moi je ne suis pas météorologue, hein.
Mais vous êtes un observateur avisé de la
politique. Oui, mais je ne mets pas un commentateur d'élections qui n'ont pas encore eu lieu. Je veux dire, on est dans la phase de campagne, il y a des sondages qui sont sont.
Je pose ma question, vous le craignez?
Mais je n'ai pas à craindre ou pas à craindre. Je veux dire, nous, on se bat pour gagner et puis après, on verra comment ça se passe.
Oui, j'ai deux questions. Alors la première,
Alain Onfray.
Imaginons dans la région du Nord, par exemple, Nord-Picardie, qu'on soit au soir du premier tour avec une Marine Le Pen à 30, un peu au-dessus de 30%, ouais. Xavier Berton un peu en dessous de 30% et un candidat socialiste à 25%. Qu'est-ce qui doit se passer selon vous pour le second tour?
Il faut que Xavier
Chacun
Bertrand,
tente sa chance.
Il faut que Xavier Bertrand gagne.
Oui.
Voilà.
Vous pensez que les socialistes doivent en tirer les conséquences, se retirer?
Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont toujours donné des leçons de morale à tout le monde.
Je veux dire,
Mitterrand et le Parti Socialiste ont toujours sciemment fait monter le Front National en jouant la Vierge indignée en même temps. Donc, pour une fois, si ça se présente, ils seront pris le nez dans leur propre turpitude et leur propre contradiction. Je vous rappelle qu'André Malraux disait à la présidentielle de 65 à l'adresse de Mitterrand au deuxième tour, puisque l'extrême droite le soutenait, « Monsieur Mitterrand, vous qui êtes le candidat de quatre gauches dans l'extrême droite. » Donc, la boucle est bouclée.
Et si le candidat de la droite est troisième?
Il le sera pas.
D'accord. Vous voulez pas envisager cette situation?
Non, parce que je pense qu'elle est pas envisageable. Xavier Bertrand fait une très bonne campagne. Il y a plutôt un effondrement de la gauche dans leur Pas-de-Calais, alors que nous maintenons. Donc je suis sûr que Xavier Bertrand, avec son énergie et son talent, sera le prochain président de la région Nord-Picardie.
Roselyne Fèvre.
Vous disiez il y a quelques instants, ça fait 30 ans qu'on entend le Front National. C'est vrai. Mais ça fait 30 ans aussi qu'on entend la gauche délégitimer la droite et la droite délégitimer la gauche.
C'est plus le contraire. C'est plus le contraire. C'est plus
le contraire. Oui, enfin, bon, prenez le sens.
Je suis un type plutôt tolérant et j'ai beaucoup d'électeurs de gauche qui votent pour moi dans ma circonscription, donc je suis pas suspect d'être sectaire, mais la gauche a toujours eu une tendance à s'arroger, comme le disait Giscard, le monopole du cœur et des leçons de morale en permanence, donc au bout d'un moment,
Il y avait une suite à la question, c'est est-ce que vous pensez pas que cette délégitimation permanente a fait aussi le lit du FN, parce que dans le fond, les gens disent, si la gauche est nulle, la droite est nulle, on va voter Front National.
Non, mais de toute façon,
il n'y a pas une responsabilité du politique
Le vote du Front National est évidemment un symptôme. Et ce qui est très intéressant, c'est que les électeurs qui votent Front National passent, entre guillemets, au Front National ce qu'ils ne passent pas aux autres partis politiques classiques. Je prends quelques exemples. Si au PS et à l'UMP, la succession se faisait de père en fille, de fille en père et en nièce, etc., ce serait considéré comme un scandale absolu.
Et vous l'expliquez comment, justement?
Si nous nous faisions financer par l'étranger, puisque c'est des banques poutiniennes qui financent le Front National, on se ferait tacler en permanence. Si on faisait la même démagogie que le Front National le fait, on se ferait également tacler. Donc c'est pour ça que le vote Front National, il ne faut pas le sous-estimer, et c'est un véritable symptôme, j'allais dire, de désespérance démocratique, donc c'est un bras d'honneur au système pour un parti qui n'est pas respectable parce que il représente tout ce que les gens refusent, mais ils votent quand même pour lui. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup d'élus de terrain, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou de non inscrits, qui bossent beaucoup, qui font des choses. Et vous voyez souvent des candidats arriver aux élections avec l'étiquette Front National sans même leur photo sur l'affiche, qui font 30, 40% sans faire campagne.
Alain Frey.
On s'attend, tout le monde s'attend à une large victoire de la droite à ces élections. Je reviens quand même sur le Front National. Est-ce que une victoire, une seule, du Front dans une région, que ce soit au nord ou au sud, suffirait à gâcher la fête?
Alors d'abord, large victoire, attention, parce que un, les élections n'ont pas eu lieu. Deux, elles sont à une date inhabituelle, en plein mois de décembre, où les Français n'ont pas l'habitude de voter. Trois, les régions ne sont pas connues par les Français, et encore moins les nouvelles grandes régions. Et quatre, d'habitude, les élections régionales sont couplées aux municipales ou aux départementales, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Donc, comme on sait que quand il y a une forte abstention, ce sont les extrêmes qui sortent avec le plus de faveur, je dis avec beaucoup d'attention à nos électeurs, mobilisez-vous, allez voter, parce que rien n'est gagné. Alors, pour répondre à votre question, bien évidemment, s'il y avait une région au Front National, même une seule, à la sortie de ces élections, ce serait effectivement pour nous une défaite, je ne vais pas dire le contraire, bien sûr.
On en vient maintenant aux primaires, et ce duel a fleuré, moucheté depuis la rentrée entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, votre candidat. Ils monteront pourtant demain à nouveau sur la même tribune, ce sera à Limoges pour soutenir Virginie Calmels, à la tête de liste pour les régionales dans la région sud-ouest. On voit à quel point la tension est grande entre les deux hommes, quand on a l'habitude de suivre ce genre de campagne. Est-ce qu'il n'y a pas à redouter qu'une fois passées les élections régionales, la campagne des primaires ne devienne extrêmement violente, et qu'à terme, cela nécessairement affaiblisse celui qui en sortira vainqueur?
Je ne crois pas. D'abord, la diversité fait partie de la vie politique. À droite et au centre, il y a toujours eu plusieurs candidats porteurs de plusieurs sensibilités. Au sein du Parti Socialiste et de la gauche, il y a toujours eu plusieurs candidats porteurs de plusieurs sensibilités. Donc la diversité n'est pas un drame. Premier point. Deuxième point, ce qu'il faut, c'est que les candidats ou candidates soient responsables et se comportent en hommes d'État. Et moi, j'ai aucune raison de suspecter les candidats potentiels à la primaire de ne pas l'être. Troisièmement,
ça a été le cas présent, selon vous,
ils sont bien comportés. Non, jusqu'à présent, les choses se sont bien passées. Je vais pas, il faut pas crier avant d'avoir mal. Troisième remarque, la procédure des primaires était dans les statuts de l'UMP dès 2013. Ça a été confirmé dans le statut du nouveau parti des Républicains. Une décision unanime a été prise en bureau politique pour fixer le nombre de bureaux à 10 000. La commission solaire a très bien travaillé, donc voilà, tout va bien.
Nicolas Sarkozy, par exemple, hier soir encore en bureau politique, trouvait que 10 000 bureaux de vote pour les primaires, c'était pas totalement
réaliste.
Alors
moi, je n'ai pas entendu dire ça en bureau politique, parce que j'y étais.
C'était une réunion avec les secrétaires départementaux, je rectifie juste hier matin.
Écoutez, moi, je veux le rassurer, on sera capable d'organiser, puisque de toute façon, c'est une structure distincte de l'UMP.
Ce genre de réflexion, c'est pas une remise en cause du scrutin.
Moi, j'ai aucune raison d'imaginer la folie d'une remise en cause de ce qui a été déjà décidé et approuvé par nos militants. Je rappelle que c'est pas, ce ne sont pas des paroles verbales, ce sont dans les statuts de notre parti.
Il y a une commission des primaires.
Ça a été approuvé par les militants et les détails d'organisation ont été approuvés à l'unanimité en bureau politique. Pourquoi revenir sur ce qui a été décidé?
Mais ce qui n'est pas un détail, c'est est-ce que ce sera une primaire de les Républicains ou une primaire de la droite et du centre?
Une primaire de la droite et du centre.
Et vous êtes sûr que là-dessus...
C'est ce qui est inscrit dans nos statuts.
Il n'y aura pas de coup de Trafalgar?
Que pour l'instant, il n'y a pas de coup de Trafalgar et que j'ai aucune raison d'imaginer qu'il y en ait.
Et que tout est fait pour qu'il n'y en ait pas, en fait.
Tout est fait pour qu'il n'y en ait pas.
Tout est verrouillé pour qu'il n'y en ait pas.
Bien sûr.
Alors, on ferait.
Je ne veux pas trop rentrer dans les détails techniques, mais ça me paraît quand même important de dire que, normalement, l'organisation de cette primaire échappe au parti. Parce que justement, c'est pas la primaire du Parti des Républicains, mais c'est une primaire beaucoup plus large. Et que la conséquence de ça, c'est que il devrait y avoir une organisation. Alors, il y a un comité d'organisation qui existe déjà, mais il doit être placé sous l'autorité d'une haute autorité. Mmh. Et surtout, j'en viens au point décisif, il devrait y avoir une structure financièrement indépendante, capable d'organiser cette consultation en créant un site internet, en appelant tous les Français à y participer très largement. Et cette structure-là, elle devrait normalement échapper au contrôle du parti Les Républicains et de son président. Est-ce que vous, sur ce point que je soulève là, vous êtes parfaitement rassuré ou est-ce qu'il y a encore un peu de travail?
Oui, c'est ce qui a été décidé. D'abord, je voudrais dire à nos auditeurs, que tous les Français qui sont inscrits sur les listes électorales pourront voter, moyennant le versement d'une participation de 2 euros et la signature d'une charte des valeurs qui les fait partager, les valeurs de la droite et du centre pour l'alternance républicaine. Donc c'est bien un appel à tous les Français à aller voter. Les Français de métropole et d'outre-mer voteront physiquement dans des bureaux de vote. Les Français de l'étranger qui nous écoutent, du moins je l'espère, pourront voter électroniquement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce scrutin sera organisé, comme vous l'avez dit Alain Auffray, par une structure indépendante. Le coût de l'organisation sera pris en charge par les 2 euros. Donc il faudra que cette structure emprunte en trésorerie pour pouvoir organiser, préfinancer l'organisation du scrutin.
D'accord. J'avais cru comprendre qu'il y avait quelques résistances du côté de Nicolas Sarkozy pour dire les choses clairement.
Daniel Fasquelle, qui est le trésorier des Républicains, a rencontré Alain Juppé récemment, où il lui a expliqué que tout le système était en train d'être organisé pour que ça se passe de cette façon.
Est-ce que la menace d'Alain Juppé reste valable? Menace que si, bien évidemment, les primaires sont faussées, il se présentera seul à la présidentielle. Mais qu'est-ce que vaut ce genre de menace? Ça serait une folie de faire ça. Je reprends votre mot tout à l'heure.
Non, ce serait une folie de ne pas faire les primaires ouvertes. J'inverse la charge de la preuve. Alain Juppé a dit ça il y a quelques mois, quand il y avait encore des incertitudes sur la consistance de l'organisation des primaires. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de remettre en cause, mais si effectivement le système des primaires tel qu'il a été décidé était remis en cause, ça rebattrait les cartes, mais on n'ira pas jusque-là.
Allez, une nouvelle réjouissante pour vous, on est à un an quasiment tout juste des primaires. Alain Juppé reste le favori des Français en tête de tous les sondages, selon les derniers sondages IFOP. D'aucuns, pourtant, continuent à parler de bulle en attendant son éclatement. Comment faites-vous pour maintenir cette avance, cet engouement? Comment vous le qualifiez d'ailleurs?
Ça fait un an qu'on entend ça. Je signale que on disait qu'il n'allait pas résister à l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy pour l'UMP, pas résister à son élection, pas résister à la création d'un nouveau parti, etc., etc. Je me rends compte qu'il est toujours là, et bien là. Alors, j'en tire pas des conclusions sur évidemment le résultat de la primaire. Donc, il est dans un travail d'écoute à la rencontre des Français, donc il laboure le terrain. Là, son objectif premier en ce moment, c'est qu'on gagne les régionales, donc qu'il se déplace partout pour soutenir nos candidates et nos candidats et aux régionales. Par ailleurs, il travaille en écoutant les Français pour structurer ses propositions. Et puis, nous nous organisons territorialement, puisqu'on a réuni à Paris samedi, il y a 10 jours, les 500 tête de réseau des comités Agis pour la France. C'est la première fois qu'on le faisait. Il y avait beaucoup d'engouement, d'enthousiasme, des Français qui, pour certains, n'avaient jamais eu aucun engagement politique, donc ce qui montre bien la diversité des sensibilités qu'il incarne.
Alain Auffray.
Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez désolé d'être nuancé, ce qui est une phrase que, je crois, Juppé pourrait aussi prononcer.
Mais oui, parce que la vie politique moderne n'y conduit pas, puisqu'il faut des petites phrases, tacler les gens en permanence.
Voilà. En effet, oui, c'est là que j'allais en venir. Est-ce que vous pensez quand même qu'on peut gagner donc une élection malgré cette exigence? On voit bien, ceux qui gagnent en politique sont en général ceux qui...
Non, pas de surmoi.
qui disent en gros aux gens ce qu'ils veulent entendre. Oui. Et Alain Juppé a ce handicap qu'il est assez physiquement incapable d'être démagogue.
Moi, j'ai trois convictions, vous savez. La première, c'est que les Français sont en avance sur leurs hommes politiques par rapport aux réformes qu'il faut faire dans le pays. La deuxième, c'est qu'il faut s'adresser à l'intelligence de ses compatriotes et pas à leur supposée crédulité. Et troisièmement, alors je suis sûr que les Français ont la gueule de bois des promesses non tenues et des propos survoltés qui ne sont suivis d'aucun effet. Ça, j'en ai l'absolue certitude.
C'est la
certitude.
Formule gagnante pour Alain Juppé.
Oui, d'ailleurs, on voit bien dans les sondages que les Français veulent pas d'un match retour Hollande-Sarkozy.
Je vais aller un peu dans la même veine qu'Alain. J'ai envie de savoir de quel bois est réellement fait Alain Juppé. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre, notamment dans le Canard enchaîné de Villepin, qui disait « La France attend à être prise, ça lui démange le bassin ». Et bien moi, j'ai envie de vous demander,
même quand on dit non, ça veut dire oui, c'est ça?
Écoutez, la suite est trop petite. En tout cas, ma question est, est-ce que Alain Juppé va bousculer la France, pour rester poli, ou est-ce qu'il va faire du Chirac?
Il fera du Juppé. Et je pense
mais c'est quoi du Juppé?
Ces trois mots que nous martelons, apaiser, parce que quand on est un homme d'État, on ne souffle pas sur les braises et on ne danse pas sur les ruines et on ne ne flatte pas les ressentiments ou les mauvais instincts. Ça me semble capital, surtout dans un moment où la France a les nerfs à fleur de peau. Deuxièmement, on rassemble et troisièmement, on agit.
J'ai pas vu le mot réforme, pardon.
Agir, c'est réformer, non?
Ah bon,
agir ou réformer, c'est le fameux triptyque. Parfois c'est agir, parfois c'est réformer.
Voilà.
On ouvre la dernière séquence de Mardi Politique. Question courte, réponse courte, et non pas idée courte. On est 10 ans.
Je suis désolé, je suis toujours trop long dans mes réponses.
On est 10 ans après la fameuse affaire Guémard, celle de votre appartement de fonction, sans doute trop grand, sûrement trop cher. Ça vous a coûté votre place au gouvernement. Qu'est-ce que vous avez appris avec Guémard de cette traversée du désert, maintenant que vous êtes de nouveau de retour en plein cœur de la machine politique?
Écoutez, c'est une traversée du désert relative. J'ai été réélu député 2 ans plus tard au premier tour. Je n'ai jamais cessé d'exercer mes responsabilités locales.
Alors,
votre question est instructive parce que ça veut dire que si on n'est pas visible médiatiquement, c'est qu'on fait rien. Et en réalité, j'ai pas cessé de travailler pendant ces 10 ans. Alors, j'ai été moins visible médiatiquement, mais ça veut pas dire que je ne faisais rien. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que dans la politique, comme dans la vie tout court, il y a des hauts, il y a des bas, on fait des conneries, on en tient compte.
Mais on apprend.
Le soir de ma démission, c'est que la passion de la France dure longtemps. Donc moi, j'ai toujours la passion de la France dans la peau et je continue à solliciter la confiance des Français.
Oui, on a le sentiment que quand Alain Juppé a aussi vécu sa traversée du désert, il est devenu très optimiste. Vous aussi, visiblement, quand on revient de l'enfer, on aime revoir la lumière.
Écoutez, c'est un enfer relatif. Il y a bien pire comme situation que de démissionner d'un gouvernement. On n'est pas membre d'un gouvernement à vie.
Ça vous suit un peu, c'est pas très agréable.
Oui, mais écoutez, voilà, quand on sait qui on est et quelle est sa statue intérieure, comme disait François Jacob, voilà, on relativise.
Alain. Vous avez dit tout à l'heure, vous croyez que, en parlant d'Alain Juppé, qu'un homme politique pouvait aujourd'hui parler à l'intelligence, ce qui paraît assez audacieux.
Quel est le dernier président,
selon vous, qui s'est comporté de cette manière-là dans la Ve République?
Je sais pas, moi je pense que le dernier, je mets le général de Gaulle hors norme, parce qu'il est classé à part, mais je pense que Georges Pompidou était cet homme-là. Quand il fait la réponse à la question de sa conférence de presse sur Gabriel Russier, mourir d'aimer, je pense que là il s'adresse à l'intelligence des gens et à leur sensibilité.
Vous avez travaillé un temps pour François Fillon avant de vous mettre au service d'Alain Juppé. Comment s'est opéré ce choix?
Oh, c'est très simple. Moi, j'ai soutenu François Fillon quand il était candidat à la présidence de l'UMP face à Jean-François Copé. Et j'avais dit à François Fillon, si Juppé est candidat à la présidentielle, je soutiendrai Juppé. S'il n'est pas candidat, je te soutiendrai toi. Il se trouve qu'Alain Juppé est candidat et que je le soutiens. Et
voilà, ce sera le mot de la fin. Fin de Mardi Politique, réalisé par Mathias Golchani. Merci Hervé Guémard d'être passé par RFI. Merci à nos partenaires France 24, Libération, Roselyne Fèvre, Alain Auffray. Rendez-vous à tous la semaine prochaine.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 ici les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.